réplique, le féminisme état des lieux, avec Eugénie Bastier et Manon Garcia. Il y a un an, le 5 octobre 2017, éclatait l'affaire Weinstein. 80 femmes portaient plainte contre le producteur de cinéma américain pour agression sexuelle et viol. 10 jours plus tard, l'actrice Alyssa Milano lançait un appel à témoins. Si toutes les femmes qui ont été harcelées ou agressées sexuellement écrivaient « moi aussi », peut-être que les gens prendraient conscience de l'ampleur du problème. Comme vient de l'écrire Michel Perrault dans l'éditorial du Libé des historiennes, la force du hashtag MeToo, c'est la rapidité fulgurante de son extension liée aux réseaux sociaux que les femmes se sont appropriées. 2 millions de commentaires en 24 heures, des centaines de millions aujourd'hui dans le monde entier. Comment caractériser cette vague d'indignation planétaire? Un homme, sans doute, n'est pas le mieux placé pour répondre à cette question. J'ai donc invité la journaliste Eugénie Bastier, qui après « Adieu mademoiselle » publie « Le port émissaire »,« Terreur ou contre-révolution », et la philosophe Manon Garcia, auteur, devrais-je dire autrice, de « On ne naît pas soumise, on le devient ». Et je leur demanderai, sans plus tarder, ce que représente pour elle le moment et le mouvement MeToo. Manon Garcia.
Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Alors, ce que je trouve intéressant dans votre présentation, c'est que vous dites qu'en tant qu'homme, ça ne vous concerne pas directement, ou que vous n'êtes peut-être pas la meilleure personne pour en parler, ce que j'entends. Mais je trouvais au contraire très intéressant dans ce qu'on a appelé le mouvement MeToo, la conséquence que ça a eu pour les hommes en termes de prise de conscience. Parce que il me semble que les femmes qui ont écrit ce hashtag MeToo ont été au mieux surprises de voir à quel point ce hashtag a été repris, mais qu'au fond, elles connaissaient toutes le type d'expérience dont il était question. Donc, on a dit, les chiffres que j'ai trouvés, c'est que 4,6 millions de femmes dans le monde ont témoigné avec ce hashtag, mais ce qui a donné à ce moment le caractère d'un événement, à mon sens, c'est que pour beaucoup d'hommes, il a été une prise de conscience de ce que vivaient les femmes au quotidien, de les agressions dans les transports en commun ou le harcèlement de rue ou toutes ces choses dont l'ampleur n'avait peut-être pas été comprise généralement. Après, ce que moi je trouve intéressant, c'est en effet, et là je pense que c'est déjà un des grands points de divergence que j'ai avec Eugénie Bastier, c'est que je pense que ce mouvement MeToo a montré que la domination masculine existait encore, en dépit de ce qu'on avait pu espérer ou croire, surtout quand on vit dans des milieux où on est très protégé. Je pense que c'est le sens... C'est pour ça, disons, que le fait que ce soit des actrices qui sont vraiment vues comme des femmes très fortes, très puissantes, très riches, qui témoignent en premier, qui portent plainte contre Weinstein, a eu un impact très fort parce que ça a montré le caractère transclasse de ce problème.
Alors, avant que Eugénie Bastier ne vous réponde, je vous dis que ma parole, si vous voulez, j'ose difficilement la formuler parce que j'ai peur qu'elle soit suspecte. Si je dis, par exemple, que la plupart des femmes que je connais n'ont pas connu d'événements traumatisants, qu'elles ont vécu avec bonheur la libération sexuelle, on me dira « oui, mais tu ne sais pas ce que tu dis ». Et puis tu le dis pour défendre les hommes. C'est la raison pour laquelle j'ai un peu peur de parler. Mais Eugénie Bastier.
Oui, d'ailleurs, je suis assez frappée de voir que beaucoup d'hommes, en tout cas, qui me disent, moi, tous les jours, j'ai des hommes qui me disent qu'ils n'osent pas prendre la parole sur ce sujet et qu'ils ont peur de s'exprimer ou ne se sentent plus légitimes pour avoir un avis, même un avis qui serait féministe d'ailleurs. Pour revenir au mouvement MeToo et à l'affaire Weinstein, c'est vrai que c'est ce qui m'a fascinée dans cette affaire, c'est pourquoi tout d'un coup un fait divers devient un fait historique, un événement historique, et pourquoi il y a tout d'un coup on se focalise sur cette affaire Weinstein et elle déclenche quelque chose, pourquoi ça prend. Et je crois qu'il y a une dimension cathartique et mimétique dans ce mouvement. C'est pour ça que j'ai pris la référence à René Girard, le port émissaire, le bouc émissaire. C'est-à-dire qu'à un moment, tout d'un coup, l'ensemble de l'attention mondiale se focalise sur cette affaire et il y a quelque chose de mimétique. Et puis l'infrastructure primitive des sociétés, à savoir le sexe, ressurgit au grand jour, alors qu'on pensait peut-être que ça avait été, c'était un problème réglé une fois pour toutes. Alors je crois qu'il y a trois manières de lire ce mouvement, dont une m'apparaît fausse et les deux autres vraies. La première manière, c'est de voir ce mouvement comme une révolution. Je crois pas, moi, que ce soit une révolution, mais beaucoup de féministes le disent. La deuxième manière, c'est de voir ce mouvement comme une réplique sismique d'une révolution passée, c'est-à-dire la révolution sexuelle, et finalement... ce ne serait finalement qu'une réplique sismique de la révolution féministe qui a déjà eu lieu et finalement ce mouvement MeToo ne serait que comment dire l'effacement d'une poche de résistance au mouvement féministe d'égalité et finalement c'est parce que justement les femmes sont libres et qu'elles ont un statut égalitaire en Occident que le mouvement MeToo est précisément né en Occident que les femmes ont pu prendre la parole. Et la troisième mouvement et que moi je trouve intéressant c'est de troisième lecture c'est de dire est-ce que ce serait pas aussi une contre-révolution MeToo. Parce que je crois que 50 ans après la libération sexuelle, après la proclamation du jouir sans entrave, de la destruction de l'ordre moral et de l'éthique sexuelle minimale, on a une aspiration à en tout cas une forme de codification du désir, une forme de règle dans la sexualité. Et je crois que paradoxalement, on pourrait lire MeToo comme une aspiration conservatrice qui est déguisée sous un vocabulaire progressiste. C'est ma thèse en tout cas.
Conservatrice, c'est-à-dire
conservatrice dans le sens
où un certain ordre moral.
Oui, un retour d'une éthique sexuelle minimale.
Alors,
Manon Garcia.
Moi, comme vous l'imaginez, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, en particulier sur cette dernière interprétation, au sens où je trouve que c'est difficile. Alors, je sais que venant de vous, conservatrice, c'est un compliment, mais pour beaucoup de gens, ça ne l'est pas. Je pense que c'est difficile de voir dans MeToo quelque chose de conservateur, au sens où ce qui est dénoncé, ce n'est pas justement les hommes en général, mais les agresseurs. Et ça me paraît étrange de dire que c'est vraiment très conservateur de considérer que le viol, l'agression sexuelle, après on peut discuter sur les cas vraiment sur la zone grise, sur le harcèlement sexuel, mais je veux dire, MeToo c'était dans l'ensemble une question sur le viol et les agressions sexuelles, où je pense qu'il y a un consensus au niveau de la société dans ce qu'on dit publiquement sur le fait que ces agressions sont inacceptables. Donc ce qui est très étonnant, c'est la question de savoir comment ça se fait, alors qu'on dit on est contre le viol, on est contre l'agression sexuelle, qu'il y ait une telle prévalence des agressions sexuelles. Après, là où je suis d'accord avec vous, en fait, étonnamment, c'est que je pense que c'est intéressant de lier ça à la question de la révolution sexuelle. Donc vous mettez sur un plan d'égalité la révolution sexuelle ou la libération sexuelle et la révolution féministe. Moi, je suis pas sûre que ce soit vraiment la même chose, parce que je pense que une chose sur laquelle nous sommes vraiment en accord, c'est que je ne suis pas sûre que la révolution sexuelle n'ait eu que des bons côtés pour les femmes. Mais ce que je pense véritablement, c'est que ce n'est pas conservateur, c'est de dire qu'il faut trouver un moyen de vivre la sexualité d'une manière qui ne soit pas une agression et une attaque contre les femmes.
Ce que je voulais dire, c'est que Weinstein et Hollywood, ce n'est pas l'ancien monde. C'est-à-dire qu'on a vu que Weinstein, c'est aussi un produit d'un monde extrêmement progressiste. C'est lui-même avait défendu d'ailleurs Hillary Clinton pendant la campagne présidentielle américaine. Il mettait en avant son féminisme. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'une partie du féminisme aveugle à vouloir poursuivre toujours l'ancien monde en disant que c'est la tradition qui produit la soumission, ne voit pas aussi que la modernité elle-même sécrète ses propres formes d'aliénation et notamment à travers le milieu, par exemple, hollywoodien, qui est un milieu, en effet, où le sexe et le pouvoir et l'argent sont très présents et qui n'a finalement plus de code minimal, de décence commune, qui explosent, mais qui ne sont pas le fait d'un ancien monde traditionnel, mais justement d'un nouveau monde progressiste.
Ah oui, mais moi, je suis d'accord avec vous. Je pense que la domination masculine perdure dans le nouveau monde.
Alors, la domination masculine perdure dans le nouveau monde. Là-dessus, je vais prendre tous les risques et sauter à l'eau. J'ai parlé de MeToo. En France, il y a eu l'équivalent, d'ailleurs vous y faites référence dans votre livre, Denis Bastier, c'est « Balance ton porc », que certaines féministes d'ailleurs ont trouvé chic. J'ai du mal à trouver chic une expression comme celle-là. Et puis l'appel à la délation, mais là je voudrais, disons, soulever un autre problème. Sandra Müller, journaliste d'ailleurs établie à New York, a demandé aux femmes de balancer leur porc, étant entendu que chacune en avait un, et son porc à elle, eh bien, c'était un producteur qui, un jour, au terme d'une longue soirée, à Cannes d'ailleurs, lui avait dit « Tu as de gros seins, tu es mon type de femme, je vais te faire jouir toute la nuit. » Bon, ça s'était arrêté là, puisque elle l'avait envoyé bouler, et elle l'a donc dénoncé nommément, en plus, et elle l'a appelé son bourreau, et elle avait dit que cette apostrophe avait provoqué chez elle honte, déni, faille spatio-temporelle. Et ce qui me paraît, c'est-à-dire que ça veut dire que ce mouvement a été placé d'entrée de jeu sous le signe de l'amalgame ou de l'indiscrimination. On ne faisait plus la différence. Enfin, tout était sinon placé sur le même plan, mais dans une espèce de continuité. L'apostrophe antipathique, l'agression, le viol. Et quand j'ai été aux États-Unis, vous l'avez peut-être su, Manon Garcia, eh bien, c'est un mort qui a passé un mauvais quart d'heure, à savoir Elie Wiesel. Une femme, Jenny Lissman, a dit que un jour, lors d'un gala de fundraising, j'imagine, Elie Wiesel, qui la prenait pour une jeune fille ultra-orthodoxe mineure, ce qui n'a pas été dit puisqu'il est resté silencieux, eh bien un jour, il l'a agressée sexuellement, autrement dit, il lui a mis la main au derrière. « He grabbed my ass ». Et il m'a pris pour une jeune fille ultra-orthodoxe mineure. Il a donc choisi de molester une personne sans défense qui ne risquait pas de se plaindre. Et ensuite, il est parti. Elle a été bouleversée parce que il lui est arrivé quelque chose de mauvais et de laid. Et elle a repris à son compte l'expression d'Elie Wiesel. Écoutez-nous avec toute votre énergie. Autrement dit, cet homme était effectivement son bourreau, et on a assisté là à quelque chose comme une choisisation de la main au derrière. Parce que tout d'un coup, Elie Wiesel, qui était la victime absolue, passait dans le camp des bourreaux. Et vous dites dans votre livre que la main au derrière, c'est pas forcément si grave que ça, c'est ça,
Geneviève? Non, je dis pas ça exactement. Je dis qu'il est toujours, je dis qu'il est fort déplaisant de devoir prendre le parti de l'indélicatesse contre la bêtise, mais qui me paraît, je veux juste qu'on, en effet, que cette vague d'indistinction, à mon avis, emporte tout dans le même sac, et je suis pour une hiérarchie des souffrances, et je pense que ce n'est pas la même chose, une insulte dans la rue, une main aux fesses, un viol, une agression sexuelle, et que établir forcément un continuum, c'est pas forcément une bonne chose, sachant que d'ailleurs, il peut y avoir des porcs qui se comportent authentiquement comme des porcs avec des femmes, mais qui ont un discours qui est extrêmement policé, et l'inverse est possible aussi. Et je trouve que mettre un continuum entre toutes les violences, notamment symboliques, verbales, physiques, etc., est dangereux parce que il donne libre cours à une forme de tartufferie. Et donc je ne minimise pas les violences sexuelles, loin de moi cette idée-là, mais simplement je pense qu'on est dans un monde extrêmement victimaire où chacun a besoin d'avoir sa part du gâteau victimaire. Et en effet, je trouve que Sandra Müller, quand elle parle de faille spatio-temporelle et de traumatisme pour une parole en effet, on va dire goujate, elle extorque les véritables victimes d'agressions sexuelles de leur malheur en voulant avoir elle aussi sa part du gâteau.
Oui, c'est le problème, c'est celui-là, l'amalgame ou l'indiscrimination. Si
mais moi, je suis entièrement d'accord avec vous, c'est-à-dire que je pense qu'effectivement, c'est pas du tout la même chose de se faire harceler dans la rue, de prendre une main au fesses, de se faire plaquer contre un mur de force par quelqu'un qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas et de se faire violer. Je pense qu'il faut impérativement faire une hiérarchie et je pense que pour revenir sur ce que vous disiez, je suis d'accord que balance ton porc n'est pas une expression très chic, mais je pense que l'idée c'était plutôt de faire le buzz et elle a réussi. Après la question c'est que je ne suis pas sûre que cette phrase de l'homme en question intervenait à la fin d'une conversation. Moi, ce que j'avais compris et ce qui en faisait dans son récit un porc, c'est que sorti de nulle part, il lui avait dit ça. Et c'est vrai que
c'est pas à la fin d'une conversation, c'était à la fin d'une soirée.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il arrive et il lui dit t'as des gros seins, je vais te faire jouir toute la nuit. C'est quand même d'une indélicatesse et d'une goujaterie.
Oui. Ah,
et on peut, mais sauf que on peut imaginer que quand on est confronté de manière régulière à ce type de goujaterie, on peut se demander comment ça se fait que ces goujateries ne vont que dans un sens. Ensuite, ce à quoi vous faites référence sur Elie Wiesel, moi je trouve que la correction veut qu'on accuse des gens qui peuvent se défendre, donc je préfère qu'on ne parle pas de ce genre d'histoire. Enfin, il faudrait pouvoir porter plainte contre Elie Wiesel et l'entendre se défendre, et ce n'est pas le cas. Donc, mais je vois ce que vous voulez dire.
C'était l'importance donnée à ce moment et cette idée qu'Elie Wiesel basculait du camp des victimes dans celui des bourreaux, alors que tout simplement, il grabbed the ass of la pauvre Jenny Lisman. Je comprends que ça l'ait choqué, mais je trouvais la manière de présenter les choses un peu inutilement.
C'est sûr que c'est une équivalence qui n'a pas lieu d'être. Après, la question, moi, là où je suis vraiment en accord avec vous, c'est que je pense qu'il faut pas mettre tous les agresseurs, entre guillemets, dans le même panier, et que c'est très important de faire la différence entre une main aux fesses et un viol. Après, là où je suis en vrai désaccord avec vous, c'est que je pense qu'il y a un continuum. C'est-à-dire pense que ce qui se joue de ce type de paroles sorties de nulle part, extrêmement goujates, mais qui sont des paroles de « tu vas voir, je vais venir, je vais te faire jouer toute la nuit », etc., à une main aux fesses, à un viol, je pense qu'il y a une certaine idée de ce à quoi certains hommes se sentent autorisés dans leur accès au corps des femmes.
Alors je rappelle simplement la phrase qui vous a été reprochée, oui. Eugénie Bastier. Toutefois, à rebours des turiféraires de MeToo, je crois qu'une main aux fesses n'a jamais tué personne, contrairement aux bonnes intentions qui, elles, pavent l'enfer des utopies.
Voilà, c'est ça. Eugénie Bastier. Moi, ce que je reproche aussi à ce mouvement MeToo, c'est aussi la culture du manifeste dont il est le symbole, et qui est une culture qui est extrêmement abondante dans nos élites médiatiques, qui adorent manifester leur bonne conscience. Et il y avait beaucoup ça dans MeToo, et je pense, et je voudrais d'ailleurs
citer... Mais vous avez fait un manifeste pour un féminisme intégral. Ça s'appelle un manifeste.
Ça s'appelle un manifeste. Quand je dis culture du manifeste, c'est l'idée de... C'est l'idée de toujours mettre la main sur le cœur en manifestant sa bonne conscience, tout en étant pas forcément une bonne personne dans la vie de tous les jours. Et je pense qu'il y a beaucoup de tartufferies dans ce mouvement. Et je voudrais d'ailleurs citer Daniel Morin sur France Inter, qui a quand même fait, donc France Inter qui nous répète toute la journée que MeToo est un mouvement formidable.
Et moi, quand je vous ai invité,
quand je suis invitée sur France Inter, Marlène Schiappa réagit en disant que je tiens des propos rétrogrades, etc. Mais elle ne réagit pas.
Le monde aussi a réagi.
Et le monde a réagi
en
disant
c'était étonné de la présence de Jenny Bastier à l'émission de Léa Salamé dans le cadre d'une série d'articles qui portait en fait sur Éric Zemmour.
Et je ferme la parenthèse. Et donc Daniel Morin, humoriste sur France Inter, qui se met du rouge à lèvres dans sa photo sur France Inter pour montrer qu'il est féministe, a fait une chronique sur Charlotte Dornelas, jeune consoeur qui travaille à Valeurs Actuelles et qui donc perd ses droits à l'humanité puisqu'elle travaille à Valeurs Actuelles. Et je lis la chronique qui était sur France Inter. Donc, les petites cathos d'extrême droite, ça me plaît, ça me fait chavirer, ça me transporte, ça m'excite. Tu me plais, Charlotte, oui, tu me plais au-delà du raisonnable. J'ai envie qu'on fasse des petits jeux coquins, des jeux de rôle où tu serais déguisée en Jeanne d'Arc et moi en Mélenchon. Tu me coincerais derrière le canapé, tu me mettrais des fessées bien méritées et moi je crierais. Oh oui, aïe, ça fait mal, mais je l'ai mérité. Je deviendrai fou de désir et ce sera mon tour de t'humilier en te disant des choses infâmes, des choses du style tais-toi, souillon fasciste, viens avec moi dans le salon, etc., etc. Nous ferons l'amour bestialement comme deux bergers allemands rongés par le stirp, la luxure et la passion. Voilà, donc je trouve que pour moi, c'est typique de ce deux poids deux mesures absolument qui a régné dans ce moment MeToo, de cette hypocrisie des tartuffes cette chronique n'a suscité aucune réaction de la part des milieux progressistes.
C'est comme les gens qui se sont mis en colère sur la réaction sur Twitter quand vous avez dit une main en fesse n'a jamais tué personne et que des gens ont répondu et ma main dans la gueule. Enfin, je veux dire, moi je fais partie des gens qui ont été scandalisés par cette réponse là. Je pense que proposer la violence contre les femmes, même si on est en désaccord avec elle, est un scandale. Je veux dire, j'avais été très choquée. Il y avait un écrivain dont le nom m'échappe maintenant qui avait fait un papier sur Marine Le Pen et comment il avait envie de la violer et de la coincer contre un mur et qu'elle n'ait pas le choix, etc. Enfin, je veux dire, je suis contre les idées de Marine Le Pen, mais je suis contre... Mais enfin, si vous voulez, moi, ça va dans mon sens. C'est-à-dire que je pense que quand même, il y a des hommes... tout progressiste qu'il soit, etc., qui se sentent autorisés à dire publiquement qu'il faut violer des nanas. Enfin, ça va dans mon sens. Après, Ce qui m'intéresse, moi, ce qui m'intéresse dans votre position que j'ai du mal à comprendre, et c'est que j'ai l'impression que vous dites bon, les hommes ils sont comme ils sont, que vous avez une espèce de pessimisme andrologique à dire bon ben les hommes sont comme ils sont, donc face à ça, eh ben il vaut mieux que les femmes soient vertueuses et pudiques, et puis finalement. Soumettons-nous, je sais pas très bien. Enfin, pour moi, c'est intéressant parce que je vois ce que vous proposez sous le prisme de la soumission, mais j'ai l'impression que vous revendiquez la compatibilité en partant du principe d'une masculinité irréformable.
Ah bon, mais alors. Oui. On en verra ce qui est de la masculinité, mais
oui,
répondez.
Je crois en tout cas qu'il y a une asymétrie du désir, une asymétrie des sexes, et qu'il y a un rapport au corps différent des hommes et au désir des hommes différent de celui des femmes. Par exemple, l'érection intempestive n'a pas d'équivalent chez la femme.
Mais vous c'est faux. C'est absolument que, bah, si, faux c'est, biologiquement. C'est, bah, enfin, je veux dire,
si c'est vrai. Si,
mais alors, vous étiez contre poser le clito. Mais alors, lisez sur le clitoris.
Pourquoi il n'y a pas quoi vous dire? Pourquoi
il n'y a pas? Excusez-moi.
Pourquoi il n'y a pas de playgirl féminin? Et pourquoi on a essayé de lancer un magazine
mais parce que les femmes ne sont pas excitées par l'objectification des hommes.
Mais pourquoi?
Mais elles sont excitées sexuellement. Mais je peux vous présenter des garçons si vous voulez. Non, moi je vous assure,
n'ayez pas peur. N'ayez pas peur.
Non, mais pourquoi? Vous pensez que les femmes n'ont pas de réaction physique au désir? C'est quand même une très drôle d'idée. Et pour le coup, vous dites sans cesse dans votre livre, ah oui, il n'y a pas de fait scientifique. Alors bon, moi qui ai fait de l'épistémologie, je sais pas ce que vous entendez par fait scientifique, mais qui prouve ci ou ça. Mais alors, pour le coup, toutes les études sur le corps féminin, le clitoris, etc., montrent que les femmes ont des réactions physiques au désir.
D'accord, mais je pense qu'il y a quand même une différence dans le rapport au corps. Et c'est pas pour rien, d'ailleurs, que la pornographie est essentiellement à destination des hommes et que les femmes regardent.
On estime que 40% des gens qui regardent de la pornographie aujourd'hui sont des femmes.
Oui, mais en tout cas, dans les scènes qui sont montrées, en tout cas,
c'est un problème de savoir pourquoi les femmes sont excitées par la pornographie misogyne.
Oui,
exactement. En tout cas,
je connais beaucoup de femmes qui n'acceptent pas de regarder la pornographie.
Non, mais je pense qu'il y a un effet de génération, pour le coup.
Peut-être qu'il y a un effet de génération, je serais d'accord.
Ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'il y a le problème, et il est entre nature et culture. C'est-à-dire que c'est le débat un peu occulté du féminisme actuel. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a cette asymétrie fondamentale, fondatrice, et que c'est la culture vient la corriger, justement. C'est-à-dire que c'est la culture qui vient encadrer les pulsions, et on peut parler de la galanterie, mais qui vient justement codifier le désir, le réprimer, l'encadrer. Et alors que les féministes croient que c'est l'inverse, qu'il y aurait une espèce d'homme naturellement bon, et que c'est la société qui en ferait la corruption.
Vous voulez dire être humain, ou homme masculin?
Être humain, oui, être humain.
D'accord,
oui, il y aurait une espèce de nature originellement bonne, et que la société éduquerait les petits garçons à être méchants avec les filles, en tout cas à être violents. Moi, je crois que c'est l'inverse, c'est quand il y a un défaut d'éducation, un défaut de culture, que justement surgit la barbarie du viol, du harcèlement, la barbarie sexuelle. Et donc je ne vois pas, pour moi, l'expression même culture du viol me paraît problématique, parce que pour moi la culture c'est justement l'antithèse de ça. Et on n'éduque pas aujourd'hui, c'est faux, on n'éduque pas les petits garçons à se comporter mal avec les filles. Il y a eu 40 ou 50 ans d'éducation aujourd'hui égalitaire, et on voit que certains phénomènes continuent d'exister. Et moi ce n'est pas à mon avis parce que on n'a pas assez déconstruit que ces phénomènes perdurent, mais au contraire parce qu'on a trop déconstruit.
Oui, et puis, puisque vous avez interpellé les hommes, la masculinité, alors je vais parler en tant qu'homme, puisque maintenant on parle en tant que. Écoutez, vous citez Catherine MacKinnon, une.
Avec qui je prends mes distances.
Vous prenez vos distances, mais elle dit ceci quand même: la domination est au cœur de la sexualité des hommes, tout autant que la sexualité au cœur de leur domination. Et ça m'a beaucoup surpris. Je me suis dit quand même, autrefois, il y a déjà longtemps, j'ai écrit avec Pascal Bruckner un livre qui s'intitulait « Les nouveaux désordres amoureux ». Et dans ce livre, nous célébrions l'expérience de l'amour et du désir comme des expériences miraculeuses de dépossession. C'est-à-dire, il y a peut-être un moment fusionnel, mais on se sent dépossédé, on se sent, si vous voulez, quelque chose apparaît comme la jouissance féminine, qui est un tout autre ordre que la jouissance masculine, qui est une sorte d'altérité irréductible, qui nous paraissait et qui peut nous paraître aussi aujourd'hui merveilleuse. Et donc, c'était tout le contraire d'un moment de domination, puisque c'était un moment de dépossession. Et le livre ayant rencontré un certain écho. Je pense que beaucoup d'hommes et de femmes ont reconnu quelque chose à une époque où on ne parlait de l'orgasme que comme un moment de communion ou et d'identité des désirs. Donc voilà, penser que la domination est au cœur du désir masculin, je crois que c'est faire bon marché de l'expérience que nous essayons maladroitement, nous étions jeunes, de relater dans Le Nouveau Désordre Amoureux.
Non mais bon alors je suis pas sûre que ce soit une très bonne idée de prendre les ventes des livres comme indice parce que je pense que Catherine MacKinnon a vendu beaucoup plus de livres.
Il s'agit pas des ventes,
non,
il
non,
s'agit
non,
d'une expérience.
Vous savez, Éric Zemmour va beaucoup
dire. Je parle pas des ventes.
Non,
je dis que ça a eu de l'écho et je dis ce que nous racontions et ce que nous vivions.
Mais je pense que vous parlez de l'amour et je pense que
du désir aussi.
Oui, mais je pense que c'est important de voir que nous vivons dans une époque, Jenny Bastier le regrette et je peux l'entendre, où l'amour et la sexualité sont très souvent divisés et séparés. Et je pense que la pornographie... Non, mais je sais bien, mais on peut le regretter ou non. Mais je pense qu'on peut parler de la sexualité sans nécessairement parler de l'amour. Ensuite, évidemment, le principe même de l'amour, c'est d'aimer l'autre. Donc, comme vous êtes un homme, pour vous, il s'agit d'altérité féminine. Moi, quand j'aime, c'est de l'altérité masculine. Bon, l'amour, c'est l'amour de l'autre. On n'aime pas un soi-même, etc. Donc, mais après, ce qui me semble important, c'est que Jenny Bastier, vous êtes contre l'idée de culture du viol, etc. Et vous pensez qu'il faut faire la part entre nature et culture. Moi, je pense, et là-dessus, je suis vraiment du côté de Françoise Héritier, qu'il y a, je ne fais pas partie des gens qui pensent qu'il n'y a pas de différence physiologique entre les hommes et les femmes. Je pense qu'il y a des différences physiologiques entre les hommes et les femmes. Après, ce que je pense, c'est que la valeur qu'on donne à ces différences physiologiques est culturelle. Et je pense que il y a une culture du viol, entre guillemets, au sens où ce ne sont pas... On nous laisse croire que le viol est quelque chose qui arrive très peu et que c'est le fait de brebis galeuses et de...
C'est l'inverse. On a l'impression, moi, j'entends l'inverse. C'est-à-dire,
j'entends
que le viol est omniprésent dans notre société. C'est ça que j'entends.
C'est récent, mais si on considère...
C'est pour ça que je m'interroge. Notre société n'encourage pas le viol. On ne peut pas dire que notre société encourage le viol et qu'elle le minimise. C'est aujourd'hui, il y a 10% des gens en prison qui le sont pour cause de viol ou d'agression sexuelle.
C'est un argument que vous proposez dans votre livre qui n'a aucun sens. Vous dites, ne mettons pas plus de violeurs en prison. Il y a déjà 10% des prisonniers qui sont.
C'est pas ce que je dis. Je dis, si vous voulez mettre davantage de violeurs en prison, il faut construire des prisons. Il faut améliorer le système judiciaire.
Mais moi, je fais partie
et généralement,
des gens qui pensent,
généralement, ceux qui tiennent, certaines féministes de gauche qui tiennent un discours anti-répressif.
Non, mais vous, le problème, c'est que vous dites tout le temps, vous mettez dans le même sac, vous dites néo-féministe, féministe radicale. On ne sait pas toujours de qui vous parlez. Vous citez pas les gens dont vous parlez. Moi, je pense que c'est regrettable qu'il y ait 10% des prisonniers qui soient des violeurs.
Vous voulez faire des fichiers comme aux États-Unis.
Pas de faire des fichiers, il s'agit de dire quand on commet des crimes,
bien
on va
sûr,
en prison. Vous dites.
C'est pour ça qu'on m'a dit que je disais une palissade en disant il faut punir les violeurs, mais non, je pense qu'il faut punir les violeurs, en effet. Et qu'aujourd'hui, ils ne sont pas assez punis parce qu'on n'a pas assez de. On a un système judiciaire qui est inefficace, c'est ce que ça a montré, ce qu'a montré MeToo.
Donc, bon, vous êtes d'accord sur ce point. Faut-il pour autant parler d'une culture du viol dans notre société? Et là, je vais vous poser une question très générale. Manon Garcia, et là c'est pas MacKinnon, c'est vous qui parlez, donc vous ne prenez pas vos distances avec vous-même.
Non.
Quel est le comportement prescrit à la femme dans la société? La soumission. Voilà ce que vous dites.
Ça, donc,
est-il vrai aujourd'hui dans la société occidentale et notamment dans la société française que le comportement prescrit à la femme est la soumission?
Je pense que c'est vrai, oui. Alors, c'est évidemment la thèse de mon livre. Je pense que si on entend soumission le fait ne pas résister activement au système de la domination masculine, alors je pense que oui, la soumission est ce qui est prescrit à la femme. Je pense qu'on demande aux femmes d'être menues, pas très fortes, de ne pas parler trop fort, de se faire discrète, d'être des bonnes mères, des bonnes épouses, d'être minces mais quand même voluptueuses, d'être intelligentes mais de ne pas parler trop trop fort et qu'on leur demande de s'occuper de la charge mentale du foyer et de l'avoir entièrement. Moi, je suis d'accord avec vous, Eugénie Bastier, qu'il faut respecter le désir de certaines femmes d'être des mères et d'être surtout des mères, etc. Mais je ne vois pas pourquoi le fait d'avoir deux chromosomes X rendrait plus capable de passer l'aspirateur. Ça n'intéresse personne de passer l'aspirateur. Il faut juste le faire, mais je ne vois pas pourquoi ces tâches-là ne sont pas également réparties.
Il y a beaucoup de femmes qui trouvent du plaisir d'ailleurs dans l'entretien de leur foyer, et c'est prouvé d'ailleurs par de nombreuses statistiques et de nombreux sondages et d'enquêtes qui disent que les femmes ont envie aussi de s'occuper de leur intérieur, de la cuisine, etc. Pas forcément dans des tâches évidemment aussi peu épanouissantes que passer l'aspirateur, mais par exemple la convivialité, le fait de recevoir, le fait d'entretenir un intérieur, ça peut être aussi considéré par des femmes qui d'ailleurs par ailleurs travaillent et ont un métier parfois peu gratifiant, comme une forme de relâchement même.
Mais donc, je pense d'accord
que,
avec moi.
Oui, mais
donc
je pense que quand c'est choisi, je vois pas pourquoi ce serait dégradant, en fait. Et je pense que, et c'est d'ailleurs, il y a pour moi, c'est le gros problème qu'il y a chez Beauvoir. Chez Beauvoir, il y a quand même une vision très négative du foyer, avec cette idée que seul le travail intellectuel serait épanouissant et que finalement tout ce qui se passe à l'intérieur de la famille et du foyer est dégradant. Il y a quand même ça chez Beauvoir.
Elle parle de sa position à elle, oui, et donc évidemment elle préfère écrire des livres qu'être mère au foyer.
Oui, mais 70
c'est sûr
ans après,
qu'elle préfère être mère au foyer que d'être une femme qui travaille à l'usine.
Mais c'est ça l'ambiguïté de sa position. Elle véhicule dans toute son œuvre, elle véhicule un mépris absolu des tâches domestiques. Elle dit la femme au foyer ne produit rien. C'est quand même incroyable de reprendre le vocabulaire du marché pour appliquer au foyer. Alors qu'elle produit quoi ? Elle produit par exemple l'éducation
des
enfants.
Mais elle fait une différence entre les tâches domestiques et le fait d'élever des enfants, et je pense que cette différence est fondamentale. Quand on dit que dans la société française les hommes et les femmes passent 2h15 par jour à faire des tâches domestiques, soit 3h pour les femmes et 1h15 pour les hommes, c'est hors éducation des enfants. L'éducation des enfants, je vois pas déjà pourquoi elle serait pas partagée à égalité entre les hommes et les femmes. Moi, je connais beaucoup d'hommes que la paternité a vraiment épanoui et rend très heureux. Je vois pas pourquoi ça pourrait pas. On trouverait que les femmes doivent plus s'occuper des enfants.
Alors, l'homme va parler.
Allez-y.
L'homme va parler et il va protester contre cette phrase selon laquelle le comportement presque femme dans la société est la soumission. Les femmes, aujourd'hui, en France, après une révolution féministe, et je serai d'accord avec Eugénie Bastier sur ce point, qui a eu lieu, les femmes ont accès à tous les métiers. C'est-à-dire, elles sont majoritaires dans la magistrature, dans le barreau. Il y a des femmes ambassadrices.
Et du coup, la magistrature est moins prise au sérieux qu'elle ne l'était.
Pas du tout. Il y a des femmes ambassadrices. Je veux dire que quand vous êtes prévenu et que vous avez un procureur, que ce soit un homme ou une femme, vous avez la trouille. Et elles sont majoritaires dans le barreau. Il y a des femmes ambassadrices. Des métiers masculins se féminisent aujourd'hui, comme l'architecture. Il y a des femmes chefs de service à l'hôpital. Regardez Radio France. Regardez France Télévisions. La direction de France Inter, la direction de France Culture, la direction de France Télévisions sont occupées par des femmes. J'ai pas fini. Si vous voulez, les femmes ont aujourd'hui la maîtrise de la procréation. Les femmes peuvent aujourd'hui évincer les hommes de la procréation elles-mêmes. Quand la PMA sera autorisée pour toutes, l'homme deviendra facultatif.
C'est
normal, celles qui sont enceintes. Celles qui ont la maternité.
Comment parler?
Vous considérez que les hommes, ils sont pas du tout responsables quand ils jouissent dans le vagin d'une femme?
Bien sûr que oui, mais c'est évidemment, les hommes ne peuvent pas tomber enceintes. Excusez-nous de cette banalité.
Comment parler d'ordre patriarcal dès lors que la paternité devient facultative? Donc, je pense qu'il faut prendre.
Je ne crois pas du tout que la paternité devienne facultative.
On va créer la PMA pour.
C'est quoi la PMA pour femmes seules et la PMA pour femmes homosexuelles? C'est quoi le père? Il a disparu.
Il est effacé.
Peut-être que c'est bien.
Attendez, moi aussi, je voudrais revenir là-dessus, parce que c'est très important. Parce que moi, je pense que c'est très, très important. Moi, quand j'ai lu votre livre, j'ai trouvé très intéressant. Vous avez très bien compris Beauvoir. Mais j'ai l'impression qu'il y a un petit problème. C'est de dire, on a l'impression que rien n'a changé depuis Beauvoir, en fait, dans votre livre. C'est-à-dire que la soumission est la même quasiment que sous Beauvoir. Or, je suis désolée, ça fait 70 ans.
Les femmes font beaucoup plus de lifting qu'elles en faisaient à l'époque de Beauvoir pour continuer à plaire aux hommes.
Mais parce que justement, je vous reproche justement dans votre livre, vous abordez la soumission patriarcale, mais vous n'abordez jamais la soumission qu'apporte le capitalisme de la séduction, qu'apporte la technique, par exemple la soumission chimique qui est la pilule, par exemple, le fait que la femme tous les jours doit prendre un médicament.
La pilule comme soumission technique.
Pourquoi Vous me demandiez pourquoi il n'y avait que les femmes qui se retrouvent enceintes sans le vouloir. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que les femmes qui prennent un médicament alors qu'elles ne sont pas malades tous les jours?
Je trouve que pilule masculine devrait
ça ne marche pas.
Ah, ça marche très bien. Juste simplement, les hommes trouvent que les effets secondaires sont insupportables, non, alors qu'ils sont moindres que les effets secondaires.
Mais vous ne pouvez pas obliger les hommes
à
prendre la pilule parce que ce ne sont pas eux qui tombent enceintes, c'est pas eux qui ont besoin de se protéger de ça.
Donc du coup, après, on dit que
c'est illusoire. C'est illusoire. Et deuxième chose, je pense que vous restez dans la soumission du vieux monde et vous voyez pas les nouvelles formes de soumission qui sont apportées par le nouveau monde. Et on peut parler de la gestation pour autrui. Vous me parlez pas non plus du voile qui est de plus en plus présent chez les jeunes filles.
Je parle du voile. Après, la GPA, je n'en parle pas. C'est vrai que moi, je ne suis pas favorable à la GPA, mais je trouve ça curieux, votre idée de ancien monde et nouveau monde. C'est-à-dire que je pense que la valence différentielle des sexes, pour reprendre l'expression de Françoise Héritier, partie de l'ancien monde, du nouveau monde, du monde point à la ligne.
Oui, mais attendez, la question qui est intéressante, c'est, en fait, la question centrale, c'est l'origine du patriarcat. D'où vient le patriarcat? Si tant est qu'il existait.
Mais moi,
il vient du fait de cette asymétrie, du fait que les femmes, ce sont elles qui engendrent dans leur propre corps et que les hommes engendrent dans le corps d'autrui. Donc, c'est de la maîtrise de la fécondité des femmes par les hommes. Cette maîtrise-là, elle n'existe plus. Les fondements du patriarcat ont disparu avec la maîtrise de la fécondité par les femmes. Donc, à partir de ce moment-là, c'est comme si vous disiez, on a aboli l'ancien régime du patriarcat, il n'existe plus. C'est comme si vous disiez 100 ans après la Révolution française que le roi dirigeait toujours, et que l'ancien régime était toujours présent. C'est faux. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est éradiquer ce patriarcat des mœurs, des reins, des cœurs, mais il a été aboli dans la loi et dans les institutions. Ça, c'est clair et c'est une réalité.
Non, mais je suis d'accord avec Manon vous Garcia. Que le patriarcat a été aboli dans les institutions au sens où nous vivons dans une société dans laquelle les hommes et les femmes ont les mêmes droits. Après, j'explique que dans mon livre, je ne parle que des pays dans lesquels nous vivons, c'est-à-dire l'Europe occidentale et le nord des États-Unis et le nord de l'Amérique, dont je ne parle pas volontairement pour des raisons que j'explique, mais que je pourrais expliquer davantage pourquoi je ne parle pas de la situation des Iraniennes, des Tunisiennes, qui est pire que la nôtre. Enfin, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais moi, ce qui m'intéresse dans la soumission, c'est précisément ce qui se passe quand les femmes ont accès à la contraception et que donc elles ne sont plus prisonnières d'un certain ordre patriarcal qu'on pourrait qualifier de biologique et qu'elles ont une égalité de droit et que pour autant subsiste une différence entre les hommes et les femmes. Moi, c'est ça qui m'intéresse.
La différence, c'est de savoir pourquoi. Une discrimination.
Dans la société dans laquelle on vit, la différence est une discrimination. Regardez les violences sexuelles. 95% des victimes de violences sexuelles sont des femmes. Regardez les différences de salaire entre les hommes et les femmes, même quand les femmes ne sont pas mères.
Attendez, les différences de salaire entre les hommes et les femmes ne relèvent pas de la discrimination. La discrimination est très sévèrement punie par le code pénal. Vous allez en correctionnel maintenant, et pas seulement dans les prud'hommes, et vous risquez la prison. Il est vrai aujourd'hui que beaucoup de femmes choisissent d'autres professions que celles des hommes, plutôt, comme on dit, le soin de terre.
Mais vous avez dit le contraire il y a 5 minutes.
Non, j'ai pas dit le contraire.
Tous les métiers sont ouverts, mais alors ça c'est intéressant, parce qu'il y a une étude américaine qui a montré que plus il y avait d'égalité justement dans les sociétés, plus les choix de carrière étaient différenciés et genrés. Ils appellent ça le paradoxe de l'égalité. Et donc en fait, on s'aperçoit que les femmes vont plutôt dans les carrières en effet du soin et de la relation à la personne, alors que les hommes vont plutôt vers des carrières en relation à l'objet. Et notamment dans les métiers de la technique, du numérique, etc.
Mais bon, on peut faire des bataille de chiffres, parce qu'on il y a aussi une étude qui est sortie hier qui montre que quand les femmes essayent d'être jardinières, plombières, mécaniciennes, etc., elles sont 20%, ils ont fait des études en double aveugle pour montrer qu'elles sont beaucoup moins contactées par les patrons qui eux-mêmes...
80% des directeurs de ressources humaines sont directrices aujourd'hui en France. Vous pensez vraiment qu'elles persécuteraient les femmes et qu'elles les empêcheraient d'arriver au même niveau de salaire que les hommes? Ça me semble étonnant.
Je pense, alors là, pour le coup, c'est quelque chose dont on peut parler. Je pense qu'un des effets de la domination masculine est de faire en sorte que les femmes soient en compétition permanente les unes avec les autres, et en particulier des femmes plus âgées envers les femmes plus jeunes qu'on invite à considérer.
Mais c'est pas la faute de la domination masculine, c'est humain. Enfin, le problème, c'est que vous avez tendance à systématiser.
Le maître et le disciple chez les hommes. Pourquoi les hommes se sentiraient pas mis tellement en danger par les hommes plus jeunes et au contraire les aident? Je veux dire, quand vous travaillez en entreprise, vous voyez que les hommes plus âgés prennent des jeunes hommes comme leur
second. C'est l'inverse, mais bon.
C'est des femmes qui vous ont aidé dans votre carrière, c'est pas plutôt des hommes?
Elisabeth Lévy, d'ailleurs, je veux la citer, mais évidemment, oui. Je pense, j'ai vécu exactement inverse. Je pense que aujourd'hui, Je parle de ma situation en tout cas. C'est un avantage d'être une femme dans la société occidentale, dans beaucoup de domaines, notamment le domaine de la carrière professionnelle, puisqu'on est avantagé même dans le droit, c'est-à-dire qu'il y a avec les systèmes de quotas et de parité, etc. Et donc j'ai un vécu absolument différent. Et je pense que par exemple, si j'avais été un homme, j'aurais peut-être pas pu écrire ces deux livres, j'aurais peut-être pas pu être invitée aussi. Enfin, je me souviens même que la première fois que j'étais invitée à la télé, c'est parce qu'il fallait une femme sur le bateau. Et donc peut-être que si j'avais été un homme avec les mêmes capacités intellectuelles et les mêmes et le même peut-être
non mais d'accord mais à ce moment-là c'est pas comme invité. Si vous disiez ah oui ben pendant extrêmement longtemps il y a eu du racisme, maintenant il y a moins de racisme, donc il y a des gens qu'on appelle racisés etc.
que qui vous ont appelez accès... racisés
non non mais voilà qu'on racisé. Appelle je veux dire je prenais pas position sur le terme justement pour éviter mais ce que je veux dire c'est qu'évidemment les plateaux sont quand même majoritairement masculins, les conférences universitaires, les colloques universitaires n'en parlons pas, je veux dire en philosophie là la tribune des philosophes non mais c'est pas la même chose
enfin,
en lettres
vous
mais
enseignez écoutez, en philosophie... vous enseignez la philosophie à Chicago vous
oui,
avez eu un problème
au département de Chicago en philosophie il y a 3 femmes et 35 hommes professeurs. Donc, excusez-moi, il y a autant de femmes que d'hommes qui ont des PhD en philosophie.
Et vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, en France, il y a plus d'agrégés de philosophie hommes que femmes et que les femmes qui veulent faire de la philosophie sont bridées dans leurs aspirations?
Ah bah oui, je le pense, oui. Ah bon. Excusez-moi, il suffit premièrement de regarder les chiffres, de regarder le recrutement des maîtres de conférences cette année. Il y a eu 16 hommes recrutés, 2 femmes. Excusez-moi.
Mais ce que vous dites là, si vous voulez, ça va nous entraîner dans un système de discrimination positive, de parité généralisée, la compétence ne comptera plus pour rien. On dira, là, on a recruté
des
hommes et pas des femmes.
Écoutez-moi, à l'agrégation, m'a dit que j'étais charmante et que je souriais, que c'était tellement agréable. Et que vraiment, alors le problème, c'est que quand on était charmante, on avait l'air superficiel. À l'agrégation de philosophie.
Mais vous avez été agrégée de philo quand même.
Oui, j'ai été agrégée de philosophie. Mais enfin, vous voyez bien que jamais on ne dirait ça à un candidat masculin. Et que ce que ça dit, quand on vous dit « vous êtes charmante, mais vous avez été jugée superficielle », jamais on ne dirait ça à un candidat masculin.
Ce qu'on dit, on peut persécuter, on peut martyriser des candidats masculins. Moi, j'ai été au concours de l'École normale supérieure de Saint-Cloud. Je faisais un exposé sur Manon Lescaut, dont j'étais très content. Et il y a Barberis, un des examinateurs, qui s'est mis à écrire sur la copie de l'autre examinateur en rouge « Pitié ». Point d'exclamation au milieu de mon exposé. J'ai failli crever.
On a tous réussi à rater des concours. Les concours, c'est difficile. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a un biais sexiste à l'université et que ça me semble pas incroyable que de le dire. Je vois que ça vous enrage.
Non, mais moi, je pense que le sexisme existe. Et d'ailleurs, je préfère me dire antisexiste que féministe, en reprenant d'ailleurs la terminologie qu'emploie Nathalie Hennick, parce qu'il y a des comportements sexistes qui, pour moi, sont même un défaut d'éducation et qui sont quasiment même un défaut humain comme le serait. Il y aura toujours des porcs comme il y aura toujours des salots sur Terre. C'est ça que je pense. Il y aura toujours des salots. On va pas expurger le mal de l'homme.
Ça, je suis d'accord.
Il y aura toujours des hommes qui se comporteront mal.
C'est-à-dire que il y aura toujours des cambrioleurs, il y aura toujours des violeurs. Mais moi, je suis pour la question,
c'est de les réprimer.
Comment
évidemment.
Ça se fait qu'il y en a autant proportionnellement.
Oui, mais par exemple, personne ne dit ne conclut de la permanence d'actes pédophiles l'idée qu'il y aurait une culture de la pédophilie. Personne ne dit ça. Il y a toujours des actes pédophiles. Vous êtes d'accord?
Il faut s'entendre. Essayer quand même d'en placer une. Il faut s'entendre, je crois, sur le concept de salaud. Par exemple, est-ce que les hommes sont des salauds quand ils aiment que quand ils aiment que les femmes plaisent. Pourquoi le fait de plaire pour une femme est-il une aliénation et une preuve de soumission? Une femme qui se maquille le matin, est-ce que elle affirme sa subordination aux hommes? Je suis très étonné. Les femmes sont-elles libres quand elles auront du poil aux jambes?
Je comprends pas. J'ai lu la revue Limite, qui est la revue de Jenny Bastier, et il y avait un texte que je trouvais intéressant, même si j'étais en désaccord avec beaucoup de ces aspects, où un philosophe, il me semble qu'il est philosophe, expliquait que le rapport de Narcisse au miroir n'est pas du tout le même rapport que le rapport de la femme dans La Belle au bois dormant, la marâtre, au miroir, où Narcisse, il se trouve beau, tandis que la marâtre de La Belle au bois dormant, elle a besoin qu'on lui dise qu'elle est belle. Et je pense que c'est effectivement une grande différence de la féminité et de la masculinité, qui est que la féminité est construite de telle sorte que les femmes ont besoin du regard des hommes pour se sentir valorisées. Et qu'il me semble que c'est une forme d'aliénation au sens le plus étymologique du terme. C'est qu'on est rendu autre. Moi, je pense, je sais que vous pensez que Beauvoir fait fi du corps des femmes. Moi, je pense que c'est pas du tout le cas. Mais je pense que ce qu'elle montre, c'est que l'expérience corporelle des femmes est une expérience d'être transformée en un objet avant même d'avoir eu le temps d'être un sujet. Il me semble que cette expérience dont elle fait part de la jeune fille qui, avant même de prendre en compte d'éventuels désirs sexuels qu'elle pourrait avoir ou ce que veut dire ce corps qui se transforme, elle est regardée dans la rue, elle est harcelée dans la rue, on lui fait des remarques pour lui dire « Regarde, tu es devenue un objet sexuel ». Et il me semble que ça, c'est véritablement l'aliénation des femmes qui est d'être construite de telle sorte qu'elle devrait penser que seule compte la valeur qui leur est attribuée de l'extérieur. Et moi, c'est pour ça que je fais ce livre sur la soumission et qu'il me semble que c'est important.
Moi, je pense qu'il y a un rapport différent au corps des hommes et des femmes. D'abord, le corps des femmes se rappelle à elle, etc. Donc, il y a un rapport aussi à la parure, à l'existence corporelle qui est différent, phénoménologiquement.
Mais l'érection, c'est un rappel à soi.
Ensuite, la question est de savoir, est-ce que le discours féministe a une efficacité? Moi, je constate une chose, c'est que 40 ans après le féminisme, enfin la révolution sexuelle, etc., 70 ans après Beauvoir, finalement, jamais le corps de la femme n'a peut-être été autant objectivé. Donc, je m'interroge sur l'efficacité de ce discours.
Ah, mais vous avez raison sur le capitalisme.
En 1920, droit de vote des femmes aux États-Unis. En 1920, concours Miss America, la même année. Moi, à mesure que la femme devient sujet, elle devient aussi objet. Et je pense que je veux bien qu'on critique le patriarcat.
Mais je pense que les hommes ont du mal à abandonner
leur privilège. Ce n'est pas la tradition.
C'est
pas la tradition qui esclavagise, qui objective le corps des femmes. Aujourd'hui, c'est le capitalisme, et notamment le capitalisme marchand, et la publicité.
Oui, le capitalisme objective le corps des femmes, peut-être. Mais enfin, quand même, aliénation, dites-vous. Mais enfin, nous sommes tous aliénés les uns aux autres. Vous êtes philosophe, vous savez ce que Rousseau a écrit sur l'amour propre. Il y a un moment donné, dans la société, effectivement, nous dépendons, qui que nous soyons, du regard des autres. Nous nous comparons, nous nous évaluons, nous nous regardons. Et c'est, je veux dire, c'est la vie même. Et
oui,
je voudrais vous citer.
Mais j'ai lu Rousseau, j'ai en effet lu le livre.
Tant mieux.
Le livre 5 que je cite dans le livre. Et je pense que c'est très intéressant de voir que Rousseau pense que tous ces développements sur l'amour propre et l'importance des autres dans la transformation de l'amour propre en amour de soi est très importante, mais il dit très clairement que ça ne concerne pas les femmes.
Oui, mais ça les concerne aujourd'hui. Mais ça les concerne aujourd'hui.
Mais on voudrait savoir.
Mais attendez. Je voudrais vous citer Bérénice Levet dans son livre « Libérons-nous du féminisme ». Souhaitons-nous que les hommes ne regardent plus ni à droite ni à gauche, ignorent, méprisent, fassent toujours plus abstraction des êtres de chair féminine qui les entourent et se concentrent sur leurs écrans et n'accordent plus leur regard, leurs égards, leur attention qu'aux créatures virtuelles. Quand même, la vie est faite de ça. La vie est faite de regards. Il y a une érotisation dans la rue, une érotisation dans les bureaux.
Moi, je vis dans les milieux féministes. Je vous assure que les gens ont une activité sexuelle épanouissante, normale, régulière.
Les roses, c'est pas que l'activité sexuelle.
Ils s'aiment. Je sais pas quoi vous dire. À un moment, c'est cette espèce d'idée de oh là là, on va faire comme aux États-Unis, où on signe des contrats pour coucher ensemble, etc. Et du coup, personne ne couche ensemble. Je ne sais pas. Je vis aux États-Unis, dans des milieux féministes. Ça n'est pas du tout l'expérience que je traverse au quotidien.
Il ne s'agit pas seulement de coucher.
Les gens s'aiment. Il faudrait savoir. Ou bien, on dit le problème aux États-Unis, c'est que plus personne ne couche avec personne. Et ensuite, quand on dit des gens couchent avec des gens, on dit le problème, c'est l'amour. Mais il y a aussi de l'amour. J'ai l'impression. Je veux dire, les hommes peuvent regarder des femmes et les femmes regarder des hommes aux États-Unis. C'est pas.
Je pense qu'il y a une erreur en fait dans l'idée de, enfin dans la position existentialiste qui est celle de Beauvoir d'ailleurs et qui est l'idée que finalement il y aurait un moi, un jeu absolument autonome qui pourrait afficher ses désirs et qui aurait des désirs propres. Je crois et c'est pour ça d'ailleurs je cite René Girard dans mon livre que le désir n'est jamais propre, il est toujours suscité soit par l'autre, soit par une rivalité mimétique et qu'il n'y a jamais véritablement de désir propre et authentique qui surgirait de nulle part. Le désir est toujours suscité, l'objet d'une rivalité et je pense que c'est ça l'erreur aussi de ce ce solipsisme existentialiste qui fait comme si finalement l'individu était libre de toute appartenance, de tout vécu et de libre même de la relation à l'autre. Or, la relation sexuelle et la relation amoureuse,
elle considère que c'est de la mauvaise foi de
il y a forcément
donc,
il y a forcément
je sais pas, relisez l'introduction du deuxième sexe, elle dit vraiment le contraire de ça.
Il y a forcément une forme dans la relation, il y a forcément un abandon, il y a forcément un moment où justement la liberté est peut-être entravée, abdiquée parce que il y a l'autre et l'autre est une limite à ma propre liberté.
Mais ça je suis d'accord avec vous sur l'abdication de l'amour, etc. Et je pense que...
C'est pas forcément quelque chose de mauvais.
Non, mais je pense pas que ce soit quelque chose de mauvais. Le problème, c'est que je pense que c'est pas quelque chose de mauvais si c'est quelque chose de réciproque. Le problème, c'est que la façon dont on décrit l'amour des hommes est l'homme aime la femme, mais il fait quand même plein de choses à côté. Il est aussi dans la vie active, dans la vie publique, etc. Et que l'amour des femmes est conçu comme un amour abdication. Mais moi, je veux bien l'amour abdication dans les deux sens. Et ce que vous décrivez, moi, je suis pour ce que vous décrivez des nouveaux désordres amoureux. Je pense que c'est vraiment la possibilité. Enfin, reconnaître ce que c'est que l'amour, c'est reconnaître une démission mutuelle. Moi, ce qui m'inquiète, c'est quand cette démission n'est pas mutuelle. Quand on dit, il faut que les femmes, elles attendent, qu'elles abdiquent, etc. Et d'ailleurs, on les valorise pour le fait qu'elles attendent et qu'elles abdiquent, tandis que les hommes devraient considérer l'amour comme secondaire, comme pas le plus important par rapport.
Alors comment vous expliquez que des femmes qui ont lu Beauvoir, je pense, moi je connais plein de ma famille, toute la génération par exemple de mes parents, mes mères qui ont toutes lu Beauvoir et qui continuent à abdiquer face à l'amour, qui continuent d'avoir une relation différente aux hommes et qui continuent à la permanence de ces différences dans la manière de
mais
de vivre.
Mais c'est ce que j'explique dans
pourquoi
mon livre.
Il y a la permanence de différences alors que
la soumission est valorisée socialement chez les femmes.
Mais non, c'est le contraire. C'est qu'on a une éducation égalitaire aujourd'hui depuis 40 ans et que ces permanences subsistent. Si ces permanences subsistent, c'est qu'elles sont ancrées.
On a quelque chose entre quelqu'un qui joue le jeu de la féminité, d'être une bonne femme, etc. Elle va être beaucoup plus valorisée que le coût de la liberté pour les femmes est beaucoup plus grand que pour les hommes.
Bon, écoutez, on est obligé d'arrêter là. Je vais quand même faire une confession masculine. J'abdique personnellement face à l'amour. Et puis, premièrement, et deuxièmement, je citerai Jean Kelevitch, qui est une phrase qui se trouve dans le livre de Bérénice Levet. L'homme joue avec la femme inconnue dont il a croisé le regard dans l'autobus et qui est pour lui la promesse pas très sérieuse d'un monde nouveau, d'une vie inédite.
Avec ce n'est pas l'amour. La nuit.
Ce n'est pas la sexualité, ce n'est pas l'amour, c'est la légèreté des rapports humains et qu'il faut savoir préserver. Vous êtes d'accord?
Je suis globalement d'accord, mais je pense que les femmes ont le même sentiment.
Ouais. Il faut préserver aussi parfois aussi l'intime de l'idéologie, du politique. Et je crois que le slogan « Tout est politique » que reprennent les féministes peut être dangereux.
Parfait. Nous en avons terminé. Ce fut chaud, comme on dit. C'est une très belle discussion. Et je renvoie les auditeurs à vos deux livres, passionnants l'un et l'autre. Manon Garcia, « On ne n'est pas soumise, on le devient » aux éditions Climat. Eugénie Bastier, « Le port émissaire ». Terreur ou contre-révolution aux éditions du Cerf. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Robespierre. Mes invités seront Marcel Gauchet et Jean-Clément Martin. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et Anne Depelchin. À la technique aujourd'hui, Valentin Hazan Zielinski. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannenet.